d'un thème qui me tient vraiment à cœur, c'est l'écoute de Dieu. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment parlé cette année. Et en fait, je vais juste vous partager ce que j'ai vécu cette année, en fait, avec Dieu. Alors, pendant que je préparais ce message, j'ai eu une petite histoire qui m'est venue en tête, en fait. Imaginez que c'est Noël. Et à Noël, au moment où tous les enfants vont ouvrir leurs cadeaux, tout le monde est super excité et sur le cadeau. Imaginez tous les enfants qui courent sous le sapin. Et là, il y a une petite fille qui cherche son cadeau, mais qui trouve aucun cadeau. Et elle se dit, mince alors, pourquoi moi j'ai pas de cadeau ? Donc elle cherche. Et elle se dit, mais j'ai pas été sage cette année ? J'ai pas eu de cadeau ? Donc, elle commence à être triste et puis elle s'assoit. Et elle regarde autour d'elle, en fait, et elle commence à être jalouse des autres. Elle se dit, mais pourquoi eux, ils ont ça et moi, j'ai pas ça ? Et il y a des gens qui viennent la voir, mais elle les repousse. Et elle leur dit, mais je veux pas vous parler, moi, j'ai pas de cadeau. Moi, la vie m'a pas fait de cadeau. Et elle pleure. Et là, il y a un homme qui arrive et qui s'approche d'elle. Et cet homme pose sa main sur son épaule et lui dit « Mais qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu pleures ?» Et elle regarde même pas l'homme et elle lui dit « J'ai pas eu de cadeau. » Alors l'homme, il se met à sa hauteur, il lève son menton et il lui dit « Lève-toi. » Alors la petite fille, elle comprend pas, elle se lève et il lui dit « Regarde où tu es assise. » Donc elle se lève et elle se dit « Bah, je suis assise sur une boîte et il y a un tissu dessus. » Et l'homme lui dit « Regarde attentivement. » Alors elle regarde attentivement, elle regarde l'homme, elle regarde la boîte, elle regarde l'homme. Et là, elle remarque que sur cette boîte, il y avait effectivement son prénom. Et elle se dit « Mais je comprends pas. Normalement, un cadeau, il y a un papier cadeau, il n'y a pas un tissu. » Et l'homme lui dit, mais c'est pas parce que ton cadeau n'a pas l'apparence d'un cadeau que c'est pas un cadeau. Et là, étrangement, elle a peur. Elle se dit, mais si ce cadeau me plaisait pas ? Et si ça me plaisait pas ? Et l'homme la regarde et lui dit, mais c'est moi-même qui ai choisi ton cadeau. Comment veux-tu que ce cadeau ne te plaise pas, puisque c'est moi qui l'ai choisi ? Alors elle l'ouvre. Et dedans, il y avait un carnet, une Bible et un stylo. Et en fait, c'était un carnet de voyage et dedans, il y avait un billet d'avion vers une destination qu'elle ne connaissait pas. Et il n'y avait pas de billet de retour. Il n'y avait qu'un billet d'aller. Cette histoire, c'est un peu une métaphore de personnellement ce que j'ai vécu, mais de comment Jésus procède dans notre vie et comment il nous amène à être avec lui, même quand nous, on ne le voit pas. Au départ de ma vie chrétienne, je me disais « j'ai pas de cadeau ». Je ne comprenais pas comment on pouvait parler, je ne comprenais pas comment je pouvais communiquer avec un Dieu. Et moi, je me disais « mais j'ai pas de cadeau ». Les gens, ils arrivent à louer Dieu, moi quand je loue, je ne me sens pas bien. Moi, j'ai pas de cadeau, Dieu ne m'aime pas. Ce que Dieu a fait dans ma vie, c'est que petit à petit, il vient sous une apparence qu'on ne remarque parfois même pas et il détruit petit à petit tous les raisonnements que nous nous sommes nous-mêmes mis. Et parfois, on est enfermé dans des raisonnements et on s'attend à ce que Dieu agisse avec nous d'une certaine façon, mais comme il n'agit pas de notre façon à nous, eh ben nous, on ne remarque pas. Et parfois, on passe à côté des cadeaux de ce qu'il se passe. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus, il désire cette relation avec nous. Il désire vraiment être avec nous. Et ce qu'il fait, c'est qu'il vient vers nous, il se met à notre hauteur et il nous parle doucement jusqu'à ce qu'on l'entende. Et ça, c'est la douceur de notre Jésus que j'aime particulièrement. En fait, moi, j'avais peur de Dieu parce que j'avais peur des adultes et je remettais la peur que j'avais des adultes sur Dieu. Mais il y a un verset qui nous dit « Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Je pense que si on est tous ici, c'est parce qu'on a connu l'amour que Dieu avait pour nous et qu'on y a cru, n'est-ce pas ? Mais la question que je me pose et que je vous pose aujourd'hui, c'est est-ce que nous croyons encore que Dieu nous aime vraiment ? Est-ce que nous cherchons encore à cultiver cet amour-là ? Parce que parfois, il y a des problèmes dans notre vie. Donc, tout va bien. Quand tout va bien, on est bien avec Dieu. Mais dès qu'il y a un problème, comme on n'a pas confiance en Dieu et qu'on ne l'aime pas, la barque va tomber forcément parce qu'on n'aura pas le regard qui est fixé sur Dieu. Je vais prendre un passage dans Exode 13, versets 10 à 16. C'est lorsque... Non, ce n'est pas ce verset. C'est Exode 14, versets 10 à 16. C'est au moment où les Israélites ont été sortis du peuple d'Égypte. Lorsqu'ils ont traversé la mer des roseaux, je vais vous lire la réaction en fait, du peuple. Le pharaon approchait. Les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils éprouvèrent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « Est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as amenés dans le désert pour y mourir ? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ? N'est-ce pas précisément ce que nous te disions en Égypte ? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. » Qu'est-ce qui se passe ? Les Israélites, parce qu'ils n'avaient pas confiance en Dieu, parce qu'ils n'avaient pas confiance en l'amour que Dieu avait pour eux, ils ont regardé aux ennemis qui étaient derrière eux. C'est vrai, imaginez, on est en train de marcher, on vient de sortir d'un peuple, et on se retourne, et là, derrière nous, on se fait courser par des chevaux. Moi, personnellement, j'aurais vraiment très très peur. Mais regardons la réaction de Moïse. Moïse répondit au peuple, « N'ayez pas peur. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. » Je pense qu'il y a une réalité, c'est que face aux difficultés, parfois c'est facile de se plaindre et c'est normal de se plaindre. Mais le problème, c'est lorsque nos plaintes vont au-dessus de la grandeur de Dieu et lorsqu'on regarde à nos problèmes. Mais Dieu est bon et il fait toujours en sorte que les choses aillent bien. Je vais vous partager un petit témoignage de ma vie cette année. Donc, je suis arrivée aux Beaux-Arts et en fait, c'est une école un peu particulière et je ne m'attendais pas du tout à ce que j'allais vivre. Et il y avait vraiment une partie de l'année où j'avais envie de partir. Je voulais vraiment partir de cette école. Et tous les soirs, je priais et je disais à Dieu, « Dis-moi là où tu veux que j'aille, dis-moi là où tu veux que j'aille. » Il ne m'a pas donné la réponse, mais je ne me suis pas couchée une seule fois sans avoir l'assurance que Dieu était avec moi, sans avoir la paix qu'il était avec moi. Et je savais que j'étais au bon endroit, même si moi, je ne savais pas où j'allais. Et c'est ça qui est génial avec Dieu. Mais il faut vraiment qu'on se fie à lui et ce que à lui désire pour nous. Je vais vous lire un autre verset. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Dieu nous guide constamment, mais parfois c'est comme une nuée. Et la nuée, si on n'y prend pas garde, on ne la voit pas. La nuée, si on ne prend pas nous-mêmes la volonté de marcher avec Dieu, la nuée, on ne la verra pas. Et c'est ça que j'ai compris, c'est que il y a de l'intentionnalité dans notre relation avec Dieu. il y a de l'intentionnalité. Si on ne choisit pas de chercher son amour, si on ne choisit pas de prier, si on ne choisit pas de faire ce qu'il nous demande de faire, on ne verra pas cette nuée-là. Et ça passe aussi dans l'obéissance de ce que Dieu nous demande. Et j'aimerais que l'on soit tous ensemble un peuple qui a confiance en Dieu, qui s'attache à ce que lui nous demande de faire et à être obéissant. J'ai remarqué que moi, dans ma vie, je voulais parler de Dieu à tout le monde, je voulais faire ci, je voulais faire ça. Mais ce que Dieu m'a amené à faire, il m'a dit d'abord, tu dois aimer ta famille. D'abord, tu dois aimer ta famille. Un jour, quand mon père est venu m'aider pour m'installer à Angers, mon père n'est pas croyant. Et parfois, on a des discussions où on se fâche un peu parce qu'ils disent « Mais non, mais comment peux-tu croire en Dieu ?» Nanani, nanana. Et moi, j'étais énervée. Mais je ne l'ai pas montré, j'ai fait comme si tout allait bien. Et quand il est parti, j'étais en colère. Et il y a quelques mois de ça, j'avais eu l'idée d'écrire une lettre à mes parents, à mon père et à ma belle-mère, pour leur dire que je les aimais. Et là, alors qu'il venait de partir, que j'étais en colère contre eux, il m'a dit « Écris la lettre pour eux maintenant. » Alors que j'étais en colère. Et j'ai dit « Non, Seigneur, j'ai pas envie. » Mais c'est là où j'ai compris l'amour que Dieu avait pour moi et qu'il avait pour chacun de nous. C'est qu'il nous demande de nous aimer malgré la colère. Et en fait, c'est ça, être enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est choisir d'obéir Dieu même quand on n'a pas envie. Parce qu'on sait que ce que lui nous demande de faire, au final, ce sera toujours bénéfique. Et je parlais de l'intentionnalité tout à l'heure. Est-ce qu'on est intentionnel avec Dieu dans les moindres détails de notre vie, dans les plus petites choses? J'avais un devoir à faire. Je devais faire de la broderie sur un grand... Donc c'était une feuille transparente grande comme ça. Et j'avais une semaine pour le faire. Et je me suis dit, bon, ça va le faire. Premier jour, j'avais brodé peut-être ça. Deuxième jour, ça. Troisième jour, ça. Sur ça. Je dis, Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Et j'ai une pensée qui vient et qui me dit, mets de la peinture sur ton travail. Et moi, j'ai dit, non. Non, j'ai pas envie, c'est pas ce que je veux faire. Donc les jours passent, j'ai fait ça. Et un jour, je me dis, bon, je vais peut-être l'écouter. Et au final, ça rendait exactement ce que je voulais, alors que j'avais pas envie de le faire. Mais est-ce qu'on demande au Saint-Esprit de nous aider dans les moindres petits détails de notre vie? Parce que si on veut marcher avec lui, si on veut le servir, est-ce qu'on le met en premier dans les petites choses et dans les petits détails? Et c'est ça qui m'a vraiment touchée avec le Saint-Esprit, c'est que pour lui, rien n'est petit. Et que même les petites choses, il est là et qu'il nous soutient dans ça. Il y a un autre verset, je ne sais pas s'il est là. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. Moïse entrait et l'Éternel descendait. Est-ce que lorsque l'on prie, on a cette assurance que Dieu descend avec nous? Est-ce qu'on est convaincu que lorsque on s'apprête à prier, le Saint-Esprit descend et qu'il est avec nous? Ça, je sais pas si c'est valable pour chacun d'entre nous. En tout cas, moi, avant, c'était pas le cas. Et c'est pour ça que mon point principal, c'est de reconnecter avec l'amour de Dieu. Parce que si on n'a pas confiance en lui, si on n'a pas confiance en son amour, on ne pourra pas l'écouter. On aura beau prier, mais ça n'aura pas de valeur parce qu'on n'aura plus confiance en lui et qu'on aura perdu ça avec lui. Et j'ai compris aussi combien le Saint-Esprit était puissant, combien le Saint-Esprit a besoin, enfin nous on a besoin de lui, mais il s'attend à ce qu'on vienne le chercher. Et je vais vous raconter un autre petit témoignage. Pendant les vacances, j'ai fait un camp chrétien qui s'appelle Impact France, qui est un camp d'évangélisation. Et moi, j'ai fait ce camp-là parce que j'avais très peur d'évangéliser et que pour moi, ça me terrorisait d'aller voir les gens et de leur parler de Dieu. Enfin, moi, je, Je suis quelqu'un qui va pas aller voir les gens que je connais pas comme ça. Et là, donc, on était avec un groupe de personnes. Et je savais pas ce que le Saint-Esprit pouvait faire. Le premier après-midi, on est allé à Saumur. Alors qu'on parlait au micro, il y a deux hommes qui se lèvent, qui étaient un peu alcoolisés, et qui commencent à nous hurler dessus en disant « Vous pouvez chanter, vous pouvez danser, mais vous n'avez pas le droit de parler de Jésus, c'est du prosélytisme ce que vous faites. » Il arrive, il débranche les micros. Et on était plusieurs, et il s'est passé la même chose dans d'autres villes. Et j'ai compris que lorsque on commence à proclamer le nom de Jésus, l'ennemi n'est pas content et il va venir, et il va essayer de tout faire pour que ça ne fonctionne pas. Mais on a continué de parler. Et il y a eu des guérisons, des gens qui ont été guéris. Et le soir, donc on a été accueillis dans l'église de la ville. Et on a mangé avec eux. Et pendant qu'on était en train de manger, il y a trois jeunes qui sont passés devant l'église. Il y avait un garçon à côté de moi, je ne sais pas pourquoi. En plein milieu du repas, il se lève, il court et il va voir les personnes et il se met à prier pour elles. Parmi les trois personnes, il y avait un jeune homme qui avait une attelle. Et donc le garçon qui était à côté de moi, un peu tremblant, il a juste dit « Au nom de Jésus, sois guéri !» Il a enlevé son attelle, plus de douleur. Et bien ce gars-là, il est parti. Mais les deux personnes qui étaient à côté ont été tellement touchées, donc c'était une fille et un garçon, ils sont venus manger avec nous et ils ont donné leur vie à Jésus. Et c'était incroyable de voir ça. Et la leçon que le Saint-Esprit m'a montrée, c'est que si mon ami à côté ne s'était pas levé, il ne se serait rien passé. Et moi, je me disais, mais comment ça se fait que dans le Nouveau Testament, il se passait plein de miracles, et pourquoi maintenant il n'y en a plus? Bah parce qu'on ne se lève pas et qu'on ne va pas prier. On ne va pas voir les gens parce qu'on n'a pas confiance en Dieu. Et qu'on ne sait pas ce qu'il peut faire. Et c'est pour ça qu'il faudrait qu'on éveille notre conscience à ce que le Saint-Esprit est capable de faire et à ce qu'il peut faire vraiment de grandiose. Il nous a dit qu'on aurait la capacité de marcher sur la tête des serpents, qu'on pourrait boire des breuvages mortels et qu'on ne mourrait pas. Et tout ça passe dans la relation avec Dieu. Tout ça passe dans l'intimité avec Dieu. Avec Réveiller les héros, ils font aussi des groupes régionaux dans lesquels on se réunit de temps en temps. Et ils nous ont parlé du journal à deux voix. Le journal à deux voix, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est le fait d'écrire une conversation avec Dieu. On met un petit tiret, « Bonjour Seigneur ». Et on note la réponse que Dieu nous donne. Et moi, j'avais peur de faire ça parce que j'avais peur que Dieu ne me réponde pas. Donc je ne le faisais pas. Mais un jour, je l'ai fait. Et il a commencé à juste me dire qu'il m'aimait. Et juste ça, ça a touché mon cœur de savoir que Dieu m'aimait. Et j'ai remarqué que parfois on a de la pudeur devant Dieu et qu'on n'ose pas trop lui demander les choses les plus simples. On peut prier pour les maladies, on peut prier pour des grandes choses, mais est-ce que parfois on va dans la présence de Dieu pour juste lui demander comment il nous aime ? Dieu est notre Père. Et les enfants ont un héritage, mais seulement de leur père. Mais si on ne considère pas Dieu comme notre père, comment on peut avoir son héritage? Si on ne se considère pas nous-mêmes comme fils et filles de Dieu. Et quand on choisit d'être avec Dieu, ben on a souvent ce billet d'avion vers une destination qu'on ne connaît pas. Et est-ce qu'on est prêt à payer le prix de ce billet-là? Est-ce qu'on est prêt à choisir de marcher avec Dieu, même si on n'a aucune idée de là où il veut nous emmener? Et je pense que ça en vaut vraiment la peine. Et que même lorsqu'on a déjà construit notre vie, on a toujours des choses à avoir avec Dieu. On a toujours, il a toujours des plans de bonheur pour nous. Et ça, c'est vraiment génial d'être avec ce Dieu si bienveillant. Mais voilà, c'est vraiment ce que je voulais partager. Et j'aimerais finir avec un petit poème que j'aimerais vous lire, qui était adressée aux jeunes de mon groupe de jeunes. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut être adressé à chacun d'entre nous. Jésus ratisse. Il ratisse les cœurs de chacun par sa main. Elle n'est pas tranchante comme les outils aiguisés. Elle n'est pas froide comme le métal des râteaux. Sa main ratisse avec douceur et puissance. De la terre sèche vient la terre ferme et odorante des prémices de ce que Dieu a déjà planté. Je nous trouve comme des petits ratisseurs avec de petits râteaux. Mais l'Éternel veut aussi que l'on ratisse, non par nos propres forces, mais par les siennes. Les pieds de certains sont comme liés, enchaînés par ce qu'on appelle le monde, et le malin se réjouit de leur malheur. Mais l'Éternel nous dit que leurs pieds sont précieux. L'Éternel préserve leurs pieds, pendant que le Saint-Esprit les oint de sa sagesse. C'est ta parole, Seigneur, qui sera leur assurance. C'est ta parole qui fera couler de leur sein ta présence, car ce sont tes mots qui font vivre. Tes paroles qui rendent vie. Alors, Saint-Esprit, ouvre leur cœur à toi. Jésus, merci parce que tu marches avec eux. Alors que tu leur donnes de l'assurance, tu es aussi à leur rythme. Donne-leur l'assurance de ton amour, l'assurance de qui tu es et de leur identité, afin que découle la source que tu es, que des traînées de ton amour et de ta présence émanent de chacun. Comme un hurlement qui sort des entrailles de Jésus, nous t'entendons dire « Jamais je n'arrêterai de ratisser. Vous êtes mes enfants, jamais je n'arrêterai de ratisser pour même un seul. » Apprends-nous, Seigneur, à nous humilier devant toi. Apprends-nous à te respecter et à t'honorer. Que nos vies te soient agréables. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous partager.
Tu m'as fait penser à mon propre témoignage. J'étais à l'école où je voulais partir la première année. Et le Seigneur m'a dit non, tu me serviras dans le cadre de tes études, enfin du travail que tu auras après, et tu me serviras. Souvent, le Seigneur nous prend à défaut de ce que nous voulons, mais c'est sa volonté que nous devons apprendre à faire et à être à l'écoute. Et l'obéissance et la soumission. Je pense qu'on ne veut pas simplement rester dans cette écoute passive. Je crois qu'il y a eu un défi qu'elle a lancé, qu'elle nous a lancé, c'est de parler du Seigneur et de se lever. J'étais frappé qu'elle ait insisté sur le fait que si ce garçon ne s'était pas levé, il n'y aurait pas eu ni ce miracle. Alors, vous voyez, les miracles en soi, c'est pas toujours ça qui amène les gens au Seigneur. Mais sur les deux personnes à côté, ça fait son effet. Et vous avez pu les amener au Seigneur en leur parlant certainement de Jésus et tout ça. Voilà, mais il fallait se lever. Le Seigneur dit « Lève-toi ». Et je pense que ce matin, il nous dit « Lève-toi ». Alors, cherchez quelqu'un, peut-être votre voisin, voisine, peu importe, et priez, que personne ne reste seul, priez pour que bien, ce message, ce matin, nous aide à nous lever. Nous lever. Et ça peut être au travail, tiens, tu parles un tel, voilà. Je pense que s'il n'y a pas de témoin de l'évangile, eh bien les gens ne peuvent pas se convertir. Ce n'est pas à nous de regarder l'efficacité de ce que nous allons faire, c'est le Saint-Esprit, hein, bien sûr. Mais la parole que nous semons, elle va produire du fruit et le Saint-Esprit va l'utiliser. Alors, mettez-vous par deux, s'il vous plaît, et sur le défi que nous est lancé, nous prions pour que le Seigneur nous ranime, nous réveille. Cette Église a besoin d'être réveillée. Et que la nouvelle génération, hein, nous maintenant, Michel et moi, nous transmettons le bâton, hein, nous avons connu aussi ces temps-là, et on ne veut pas être nostalgique, on veut simplement dire, maintenant il faut que cette Église à nouveau se réveille pour que cette génération transmette le message de l'Évangile. Parce que sinon, on n'a aucun sens ici, il n'y a aucun sens à cette Église, si nous ne témoignons pas. Et il y a besoin ce matin de prier pour ça, voilà. Alors, je vous laisse bouger et puis prier les uns pour les autres.